Voilà, pardon, j'ai réactivé mon micro. Annelise Thibony, je suis professeure de droit européen et effectivement, ma recherche porte beaucoup sur comment le droit peut utiliser les apports des sciences comportementales. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. Alors, voilà, le sujet qui m'a été demandé de traiter, c'est de voir un peu comment, si et comment les sciences comportementales peuvent renforcer l'effectivité des recommandations de comportement. Alors, pour vous donner un aperçu de ma présentation, je vais d'abord évoquer la pertinence des sciences comportementales pour les gouvernements, en général et en particulier. Voilà, on m'a dit que toutes les personnes qui étaient rassemblées ici n'étaient pas forcément familières avec les sciences comportementales, donc ici je m'excuse par avance auprès de celles qui le sont. Mon deuxième point, ce sera de dire un mot de l'attrait des nudges pour les gouvernements. Et puis ensuite, j'arriverai un peu plus près du thème proposé par les organisateurs, à savoir articuler les apports des sciences comportementales avec droit dur et droit souple. Et en venant ensuite à la lutte contre la pandémie, j'aimerais vous dire pourquoi le droit dur semble le plus important et terminer sur, malgré tout, la place des sciences comportementales en général et des nudges en particulier. Alors, pour commencer, pertinence des sciences comportementales pour les gouvernements. Alors, les sciences comportementales, ce n'est pas très récent, disons que ça a commencé à se développer après-guerre, dans les années 50, 60, 70. Et puis, mais alors, il y a eu une sorte de prise de conscience, il y a un peu plus de 10 ans, et le livre qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de lecteurs de Richard Taylor et Cass Sunstein, Nudge, qui a voilà, popularisé aussi le terme, ce livre a fait beaucoup pour la prise de conscience au sein des gouvernements de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à aller voir du côté des sciences comportementales. Alors, sur l'image du milieu, vous avez une illustration directe de mon propos qui est donc 2 ans après la publication de ce livre, en 2010, il y a 10 ans maintenant, devant le 10 Downing Street, la création de la Behavioral Insights Team, plus connue comme Nudge Unit britannique, avec Richard Taylor et David Halpern, le directeur de cette Nudge Unit. Et le Royaume-Uni a été le premier à institutionnaliser cette interface entre sciences comportementales et gouvernement, mais ça n'est pas du tout le seul pays qui a recouru aux sciences comportementales. Et c'est l'illustration suivante sur la diapositive, un rapport qui a 3 ans maintenant de l'OCDE qui répertoriait 100 d'expériences de par le monde d'utilisation des sciences comportementales. Inutile de dire que ça n'est pas exhaustif, loin s'en faut. Alors, de quoi s'agit-il pour ceux qui découvrent complètement la thématique? Très très brièvement, le livre Nudge dont je parlais il y a un instant s'ouvre sur l'exemple assez terre à terre d'une cantine. Et dans une cantine où les gens peuvent choisir ce qu'ils vont prendre, on peut par exemple en mettant à la hauteur des yeux soit les fruits, soit les parts de gâteau, influencer ce que vont choisir ici les enfants. Et on ne les contraint pas, ils peuvent toujours choisir le gâteau s'ils veulent, mais l'architecture de choix, c'est le terme qu'il est important de retenir ici, l'architecture de choix va influencer les comportements sans contrainte. Alors, de manière générale, les sciences comportementales nous donnent un énorme savoir dans lequel puiser pour savoir ce qui va influencer les décisions sans contrainte. Il est hors de question que je vous présente un aperçu de ce riche savoir. Il y a au moins 150 phénomènes comportementaux qui sont répertoriés. Je vais en prendre un que je n'ai pas du tout choisi au hasard, vous allez voir pourquoi, qui est l'effet de cadrage. Alors j'en profite pour vous présenter Kahneman et Tversky. Comme vous voyez, ils travaillaient dans les années 70. Et un des articles les plus influents qui a contribué au prix Nobel d'économie qui a été décerné à ces deux psychologues, un de leurs articles les mieux connus porte sur ce qu'ils ont appelé un effet de cadrage, framing effect. Et ils travaillaient beaucoup par vignettes, donc des expériences où on racontait une histoire aux gens et puis on les faisait réagir. Alors cette histoire-là, et ça résonne curieusement aujourd'hui, parlait d'une curieuse maladie asiatique qui menaçait une communauté, et dans l'exemple qu'ils ont étudié, la communauté fictive comportait 600 personnes. Et l'expérience est la suivante, elle consiste en fait en deux expériences. Première expérience, les gens qui sont donc mis dans la peau des décideurs d'une mesure de santé publique ont le choix entre une mesure A, dont on leur dit qu'elle sauvera 200 personnes sur les 600, donc avec certitude, ou bien une mesure B, dont on leur dit qu'elle a une probabilité de 1/3 de sauver les 600 personnes et une probabilité de 2/3 de ne sauver personne. Donc vous voyez que ces deux mesures ont la même espérance de gain, selon la terminologie des économistes, mais l'une est présentée comme une certitude et l'autre comme probabiliste. Expérience 2. Alors, dans cette première expérience, la plupart des gens, presque 2/3, 72%, choisissent la mesure A, la mesure qui sauvera 200 personnes avec certitude. Expérience 2. On propose en fait le même choix, c'est avec une mesure C, où on dit que 400 personnes vont mourir avec certitude. Vous remarquez que c'est la même chose que la mesure A. Ce qui change, c'est ce qu'on appelle le cadrage. Dans un cas, c'est un cadrage positif. On parle de la vie, de sauver des vies. Dans l'autre, on parle de personnes qui vont mourir. Même chose avec la mesure D. C'est exactement la même que la mesure B, mais avec un cadrage négatif, une référence à la mort plutôt qu'à la vie. Si les gens étaient rationnels, cette modification de la formulation ne devrait avoir aucun effet. Et pourtant, ça a un effet massif, parce que au lieu de choisir la mesure C, qui est équivalente à la mesure A choisie dans la première expérience, les gens choisissent massivement la mesure D. Donc, cette expérience célèbre montre que des éléments d'une situation qui, en principe, si on était des homo economicus, ne devraient avoir aucune influence, ont en réalité une influence et une grande influence. Et au passage, il est aussi maintenant bien documenté que nos gouvernants, nos dirigeants, nos décideurs ne sont pas immunisés contre ces phénomènes comportementaux. Et je n'ai pas le temps de développer, ce n'est pas non plus le sujet sur lequel on se focalise aujourd'hui, mais je vous renvoie à cet égard à un document justement de la Nudge Unit britannique, Behavioral Government, un rapport de 2018. J'en viens à l'attrait des nudges et qu'on pourrait appeler ou la tentation du droit souple. C'est un point important parce que souvent, l'utilisation des sciences comportementales dans le gouvernement est associée à l'utilisation de nudges. Une nudge qu'on peut définir comme des interventions peu coûteuses sur les architectures de choix et qui orientent les comportements sans modifier les incitations économiques. Donc, pas de contraintes, pas de modification des incitations économiques, mais quand même une influence douce. Donc. Et dans le discours sur les sciences comportementales, il y a une très grande focalisation sur ces méthodes de droit souple, sur les nudges. Et je mentionne un exemple, là aussi très, très célèbre, parce qu'il a un lien avec ce sur quoi je reviendrai un tout petit peu plus tard. Un exemple très célèbre qui a financé, qui a rapporté tellement d'argent qu'il a financé la Nudge Unit britannique pendant plusieurs années, c'était de modifier une lettre de rappel envoyée aux personnes qui n'ont pas payé leurs impôts à temps. Donc, remarquez que dans cet exemple, on n'utilise pas du tout le droit. On ne change pas la législation fiscale. On change une pratique administrative, on change un modèle de lettre. D'accord ? Et ce nouveau modèle faisait appel à ce que les psychologues appellent la norme sociale. C'est-à-dire qu'on faisait, on mettait en avant le fait que les autres contribuables qui habitaient dans le même, dans le même canton, dans la même ville, avaient, eux, déjà payé l'impôt. Et ça a été très efficace dans le sens où les gens ont plus payé qu'avec l'ancienne lettre. Ça a évité, évidemment, des frais de recouvrement, etc. Alors, d'où l'attrait des nudges, ça coûte pas cher, changer un modèle de lettre, ça coûte effectivement pas cher du tout, et ça peut rapporter gros. Mais un point important, me semble-t-il, par rapport à la thématique du droit dur et du droit souple, c'est que l'expression juridique que prend que prennent les savoirs comportementaux lorsqu'on les intègre dans la confection des politiques publiques, cette expression juridique n'est pas forcément du droit souple. Et ici, je prendrai un seul exemple. Vous voyez sur ce graphe qui n'est pas à jour, mais ça n'a aucune importance, un groupe de pays avec un taux relativement faible de on ne sait pas quoi et un groupe de pays avec un taux très élevé de la même chose. Alors maintenant, je vous dis que ce taux, c'est le pourcentage de donneurs d'organes dans la population. Est-ce que la raison, c'est que les Danois sont beaucoup moins altruistes que les Belges ? Non. La raison, c'est que le droit danois et le droit belge ont des règles par défaut différentes quant au don d'organes. Si vous n'avez exprimé aucune volonté et que vous mourrez dans des conditions qui vous permettent de donner, qui permettent de prélever vos organes. Dans un cas, le droit dit qu'on ne prélève pas vos organes, dans l'autre, il dit qu'on peut prélever vos organes. Et vous, dans ce cas-là, c'est bien du droit et du droit dur qui définit une architecture de choix, qui définit une option par défaut. Alors, j'en viens au contexte de la pandémie et pourquoi le droit dur est plus important dans ce contexte que le droit souple. La première raison, c'est qu'il est bien difficile de préparer des interventions comportementales efficaces, bien calibrées, intelligentes, en temps de crise. Première raison, c'est que la littérature existante est pauvre en résultats qui sont pertinents dans un contexte de pandémie. Or, il faut, et c'est une leçon constante de l'utilisation des sciences comportementales dans les gouvernements, il faut bien se garder de trop extrapoler des résultats qui ont été obtenus dans un contexte très différent. Au contraire, il est nécessaire de tester, hein, c'est l'un des rapports de la Nudge Unit britannique qui s'appelle Test, Learn, Adapt, qui parle de la méthodologie justement de ces tests avant de pouvoir utiliser des résultats comportementaux dans les politiques publiques. Or, dans un contexte d'urgence, on n'a simplement pas le temps de faire ces tests. Autre raison pour lesquelles des interventions comportementales ne sont pas forcément adaptées, c'est que l'ampleur des changements que ce type d'intervention permet d'espérer est sans doute trop limité. Une très intéressante méta-étude parue l'année passée a revu un très 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 grand nombre d'études comportementales et s'est intéressée à une seule chose, la taille, l'importance des effets constatés. Et les chercheurs ont trouvé que la taille médiane des effets était de 21%. Alors 21%, c'est super. Si vous essayez de faire que les gens mangent moins de sucre, moins de calories, se portent mieux, etc., vous êtes déjà très très content avec une diminution de 20%. Mais si vous cherchez à lutter contre une pandémie, c'est pas le bon ordre de grandeur. Alors, par ailleurs, troisième raison, et qui est encore plus forte que les deux autres, c'est que les comportements qu'on essaye de réguler dans le contexte de la pandémie, ce sont des comportements qui créent de fortes externalités négatives. Si les personnes ne respectent pas la distanciation sociale, ne se lavent pas les mains, ne mettent pas leur masque, elles contribuent à la maladie d'autres gens. Or, les nudges sont adaptés pour aider les gens à prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes. Et en présence d'externalités, et encore une fois ici les externalités sont très fortes, même Cass Sunstein, qui est quand même le grand prêtre du nudge et qui vante leurs avantages dans de nombreux contextes, même lui dit que dans ces contextes-là, ça n'est pas adapté. Notamment parce qu'il est toujours possible de passer outre un nudge, de ne pas se conformer, puisqu'il ne s'agit pas d'une règle obligatoire. Ceci dit, il y a quand même une place pour les interventions comportementales et les nudges dans la lutte contre la pandémie. Première possibilité, qu'on ait du droit souple qui se substitue au droit dur, là où ça serait théoriquement mieux d'avoir du droit dur, mais on ne peut pas. Alors, exemple de droit comparé, au Japon, on a utilisé principalement le droit souple parce que les autorités gouvernementales locales n'ont pas l'habilitation constitutionnelle à légiférer ou à réglementer à propos des comportements qui étaient importants pour lutter contre la pandémie. Parfois, ça n'est pas un problème de constitution. Par exemple, aux États-Unis, les gouverneurs dans les États ont les pouvoirs qui vont bien, mais politiquement, dans certains contextes, c'était difficile, par exemple, d'interdire des rassemblements religieux. Et donc, comme c'est politiquement inconfortable, ben, on fait un petit peu autrement. Ce n'est pas idéal, c'est un pis-aller, mais ça peut être mieux que rien, néanmoins. Plus important, les nudges peuvent compléter les règles. Et comme dans mon exemple de tout à l'heure pour les impôts, un bon nudge peut augmenter le respect de la règle. Alors ici, j'ai répertorié 4 manières de compléter des règles. Bien communiquer à propos des règles et des recommandations, renforcer les normes sociales, débiaiser, et puis les fameuses architectures de choix pour aider au respect du droit et des recommandations. Alors, l'importance de la communication n'a pas besoin d'être soulignée, elle l'est dans certains documents, dont un que je cite ici. Et les bonnes pratiques en matière de communication sont bien connues, notamment des entreprises, des marketeurs, etc., mais parfois un peu moins de la part des gouvernements. Et donc, il est utile de rappeler que c'est important de communiquer à temps des messages concrets, directs, simples, saillants et qui donnent du sens. Alors, un bon exemple dans le contexte de la pandémie, c'est cette communication du gouvernement britannique avec du jaune, des flèches rouges, un graphisme qui évoque le danger, faites attention, comme sur des panneaux quand il y a des travaux. Et puis, un message très simple, stay home, on dit ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Ça donne du sens. Protect the NHS, save lives. Une autre dimension de la communication sur laquelle les sciences comportementales donnent un éclairage, c'est les motivations. Est-ce qu'il faut jouer sur les motivations égoïstes des gens, sauver leur vie, ou altruistes, sauver les autres ? Alors, historiquement et par rapport à l'économie néoclassique, les sciences comportementales ont souligné l'importance des motivations altruistes. Et dans le contexte de la pandémie, c'est sans doute particulièrement important dans la communication qui vise les jeunes. Et il y a des premières études, les données sont préliminaires, mais enfin, qui suggèrent que c'est efficace. Un autre phénomène important, c'est le phénomène de la victime identifiable. En un mot, nous sommes plus sensibles aux histoires qu'aux statistiques. Et donc, quand on nous raconte une histoire de quelqu'un de vrai, peu importe que ce soit Eduardo qu'on ne connaît pas, mais on nous explique qu'il habite dans telle ville d'Italie, qu'il a sa famille, etc., on peut se raccorder à cette histoire. Ça peut être aussi quelqu'un dont qu'on connaît. Donc ça, c'est efficace. Je vais sauter ça dans l'intérêt du temps. La preuve sociale, dernier point sur la communication. Alors, la preuve sociale, c'est le fait qu'on a tendance à saisir les gens dans notre environnement à propos de ce qu'il faut faire. Quand on voit des tas de gens stocker du papier toilette, par exemple, eh ben, ça a un effet boule de neige, les gens se mettent à stocker du papier toilette. Alors, on peut utiliser ce type de mécanisme psychologique dans la communication, en communiquant sur le respect des mesures de précaution plutôt que sur les comportements déviants. Par exemple, ici, c'est une photo de la Grand Place de Bruxelles, un endroit qui est habituellement qui est souvent noir de monde. Quand on montre que c'est vide, on montre que la plupart des gens s'en tiennent aux mesures et donc on communique en utilisant ce mécanisme de la preuve sociale. Que les gouvernements donnent l'exemple, donc exemple de l'ancienne première ministre belge Sophie Wilmès, contrastée avec Jair Bolsonaro, c'est important aussi. Je vois que le temps tourne, donc je vais peut-être aller à la suite, les architectures de choix. Architecture de choix pour les citoyens. Ici, j'ai choisi une photo d'un dispositif qui avait été mis en place à Bruxelles dans des galeries commerçantes fréquentées. On avait quadrillé le sol en rouge et des acteurs jouaient à un jeu qui indiquait aux gens qu'il fallait laisser un carré rouge autour d'eux dans toutes les directions. Donc, un type de marquage au sol combiné avec un dispositif de gamification. Ce dont on parle un peu moins, c'est les architectures de choix pour les entreprises. On a, dans le contexte de la pandémie, des réglementations qui changent très souvent, qui sont très détaillées, par exemple, sur l'écartement entre les tables, la distance entre le comptoir et les clients, que sais-je. Ça change souvent, c'est compliqué. Et donc, même des entreprises de bonne volonté peuvent trouver difficile de respecter les règles. Et là, donc, il y a des études qui montrent que faire des checklists et communiquer des checklists, ça peut aider. Et je termine en mentionnant un article intéressant de PR et de Feldman qui ont fait une étude empirique pour étudier l'efficacité des serments. De demander en même temps qu'on communique par exemple une checklist ou pas aux entreprises de s'engager à respecter les règles. C'est du droit souple, mais ça a un effet. Et donc, en guise de conclusion, je ne peux que féliciter les organisateurs d'avoir choisi, comme ils l'ont fait, le titre de cette intervention. En effet, les sciences comportementales sont surtout utiles pour renforcer l'efficacité des règles et des recommandations de comportement dans le contexte de la pandémie. Et j'ai indiqué ici les quelques références sur lesquelles je me suis appuyée. Merci beaucoup.